Donc santé des enfants et environnement, qui est là pour vous aider à entourer les enfants d'un environnement sain, non pollué et empreint de nature. Bienvenue dans ce nouveau podcast, qui est la deuxième partie d'un premier podcast qui avait été consacré à la chronique du livre Last Child in the Woods, le dernier enfant dans les bois, de Richard Louve. Richard Louve, c'est un auteur et journaliste scientifique qui a fondé et qui préside notamment l'ONG Réseau Enfants et Nature. Ce livre est considéré comme un ouvrage de référence sur le lien entre les enfants et la nature. Comme j'ai eu l'occasion de le lire dans le premier podcast, il recense les résultats de différents travaux scientifiques portant sur le rôle que joue la nature dans le bon développement des enfants, et aussi portant sur les impacts du manque de nature sur la santé des enfants, aussi bien physiologique que psychologique. Donc, sur le blog, généralement mes chroniques de livres font l'objet d'un seul article. Je pense qu'on peut lire entre 5 et 10 minutes. Et ce livre, j'estime qu'il est tellement riche en informations et en recommandations de qualité qu'il a fait l'objet de 4 articles, dont ce deuxième podcast va compiler, en tout cas je vais vous lire, les parties 3 et 4. Donc je commence par la troisième partie de la chronique, où il est question notamment de ce qu'on appelle la théorie des pièces détachées, et également de la restauration de l'attention grâce à la nature. Donc je reprends l'organisation habituelle des chroniques, c'est-à-dire je commence par donner quelques informations et points de vue intéressants concernant la thématique santé des enfants et environnement, le lien qui est à la base du blog. Et puis ensuite, je propose quelques extraits du livre, toujours en lien avec cette thématique. Donc, je commence avec les informations et les points de vue. La théorie des pièces détachées peut être résumée de la manière suivante. Dans tout environnement, l'inventivité et la créativité des enfants sont proportionnelles au degré de variabilité qu'on y trouve. Les jouets sans utilisation préétablie, une ficelle, un morceau de carton, des Legos, etc., seront les plus utiles pour développer ces deux capacités, car ils peuvent être utilisés de multiples façons, et combinés entre eux selon l'imagination. Les éléments trouvés dans la nature, de l'eau, des bouts de bois, du sable mouillé ou sec, des buissons, des fleurs, des herbes hautes, etc., constituent de tels jouets pour les enfants. Les enfants n'ont pas forcément besoin d'aventures fantastiques ou de vacances en Afrique. Ils ont juste besoin d'un goût, d'un son, d'une vue ou d'un toucher pour se reconnecter avec la nature et ses expériences sensorielles. L'immersion des enfants dans le monde électronique continuera de s'approfondir avec le temps. L'âge de l'information pourrait correspondre à une perte de notre capacité à faire l'expérience du monde directement avec nos propres sens. Déjà aujourd'hui, notre expérience du monde est bien appauvrie, déformée car indirecte, souvent basée sur la vue et l'ouïe uniquement, unidirectionnelle. Dès 1890, le philosophe et psychologue William James distinguait deux types d'attention. L'attention dirigée et l'attention involontaire. Inspiré par James, Stephen et Rachel Kaplan, psychologues environnementaux à l'Université du Michigan, ont développé la théorie de la restauration de l'attention, aujourd'hui bien établie. Selon cette théorie, trop d'attention dirigée conduit à une fatigue de l'attention dirigée, caractérisée par une attitude impulsive, de l'agitation, de l'irritation et une incapacité à se concentrer. Selon cette théorie également, un environnement où l'attention est automatique, non dirigée et involontaire, permet de reposer l'attention dirigée. C'est pourquoi, selon les Kaplan, la nature peut être la source la plus efficace de restauration de l'attention dirigée. Entre 1980 et 2003, le temps libre des enfants a baissé de plus de 9 heures par semaine. Au sein du temps libre restant, l'utilisation de l'ordinateur a doublé. Entre 1980 et 1997, le temps d'étude des enfants de 12 ans et moins a augmenté de 20%. Comme pour la croissance des sports organisés, l'augmentation des devoirs à la maison et du temps d'étude n'est pas nécessairement une mauvaise tendance. Néanmoins, trop souvent, cette montée en pression éclipse le temps de jeu libre dans la nature. Donc à présent, quelques extraits du livre, en lien avec la thématique « Santé des enfants et environnement ». Quand un parc évolue vers un terrain de jeu, les enfants gagnent une capacité à jouer au football, mais ils perdent des endroits pour pratiquer un jeu libre, autodirigé. Cela prend du temps de faire l'expérience de la nature d'une manière pleine de sens, un temps de rêve non contraint et non structuré. À moins que les parents n'y soient vigilants, un tel temps devient une ressource rare. Encourager les enfants à jouer dehors dans des espaces verts et militer pour des récréations dans des cours d'école vertes. Cela peut être particulièrement utile pour renouveler la concentration des enfants. Le temps dans la nature n'est pas un temps de loisir. C'est un investissement essentiel dans la santé de nos enfants. Déplacer l'expérience de la nature de la colonne « loisir » à la colonne « santé ». Parlant de ces enfants, je suis souvent surpris de constater que certaines activités que j'avais soigneusement planifiées s'inscrivent bien moins fortement dans leur mémoire à long terme, comparé à d'autres activités complètement spontanées et dont j'ai moi-même du mal à me remémorer. En tant qu'adulte, nous pouvons planifier un million de choses pour que le temps de nos enfants soit rempli de sens. Mais ce qui résonne vraiment dans leur être intérieur est hors de notre contrôle. Tandis que de plus en plus de parents gardent leurs enfants à l'intérieur de leur maison, ou sous un contrôle rigide, on empêche les jeunes de faire preuve de confiance en eux et de discernement, d'interagir avec les voisins, ou d'apprendre à construire une réelle communauté, ce qui est une défense contre les sociopathes. L'Agence de protection de l'environnement nous avertit maintenant que la pollution de l'air intérieur est l'exposition environnementale qui menace le plus notre santé. 2/3 des enfants américains ne peuvent pas réussir un test physique de base. 40% des garçons et 70% des filles âgées de 6 à 17 ans ne peuvent pas faire plus d'une traction. Et 40% montrent des signes précoces de problèmes vasculaires et cardiaques, selon un rapport récent du Conseil présidentiel sur l'aptitude physique et les sports. Alors, où est le plus grand danger? Dehors dans les bois et les champs? Ou sur le canapé devant la télé? Une couverture enroulée trop serrée a aussi ses propres conséquences. Les enfants sont si déconnectés de la nature que soit ils l'idéalisent, soit ils l'associent à la peur. Les deux faces d'une même pièce, puisque nous avons tendance à craindre ou à romancer ce que nous ne connaissons pas. Le problème ne sont pas les ordinateurs en eux-mêmes, ce sont juste des outils. Le problème est que la surdépendance aux ordinateurs remplace d'autres sources d'éducation, des arts à la nature. Ce que les responsables de parc appellent, entre guillemets, « tour derrière son pare-brise », ont remplacé le camping. En 2001, le nombre de visiteurs qui ont campé dans les parcs nationaux a baissé de presque un tiers, atteignant son plus bas point depuis un quart de siècle. Cette baisse est particulièrement marquée parmi les personnes âgées de moins de 30 ans. Peut-être parce que personne ne les a emmenés camper quand ils étaient jeunes. Voilà, c'est la fin de la troisième partie de cette chronique. Je vais maintenant vous lire la quatrième partie, où il est question notamment du risque de l'enlèvement par un inconnu et de la notion de mentor nature. Donc, tout d'abord, quelques informations et points de vue intéressants concernant la thématique santé des enfants et environnement. En 2006, près d'un tiers des enfants de 6 mois à 6 ans vivaient dans des maisons où la télévision était allumée tout le temps ou la plupart du temps. En moyenne, les enfants de 8 à 18 ans passaient environ 6,5 heures par jour devant un écran. Cela représente 45 heures par semaine, soit plus que ce qui est considéré comme la semaine de travail d'un adulte. Selon les statistiques disponibles, la grande majorité des enleveurs d'enfants sont des membres ou des connaissances de la famille. Ce ne sont pas des inconnus. nourri par le traitement médiatique des cas existants et par un fort risque légal pour les encadrants d'enfants, la peur de l'enlèvement par un inconnu fait surévaluer le risque réel. Les taux de crimes violents contre les enfants ont baissé aux États-Unis. Ils sont aujourd'hui bien en dessous des taux mesurés en 1975, ce qui contredit la perception de la plupart des parents. Les résultats de recherche disponibles suggèrent que l'ordinateur est un outil d'apprentissage peu efficace. Les enfants ont besoin de, entre guillemets, « mentors nature ». Des personnes qui enseignent le respect de la nature, montrent l'attention apportée aux phénomènes naturels et avec qui les enfants peuvent partager leurs expériences. Les mentors nature peuvent également transmettre un savoir lié à la nature, mais l'essentiel n'est pas là. Quand on introduit un enfant au monde naturel, l'important n'est pas de savoir, mais, comme le souligne Rachel Carson, de ressentir et de redécouvrir, je cite, « la joie, l'excitation et le mystère lié au monde dans lequel nous vivons ». Fin de citation. Je fais une parenthèse pour dire que sur le blog, j'ai eu l'occasion de faire la chronique d'un livre de Rachel Carson, donc il est vraiment un auteur de référence, je pense d'une manière générale, et pour moi en particulier. Et le livre que j'ai chroniqué s'appelle « Le sens de l'émerveillement ». Je pense que ça m'a tellement plu, je pense que j'aurai l'occasion d'en faire un podcast également. Je reviens à la chronique du livre de Richard Louv. Le plus gros problème pour les enfants n'est pas l'absence d'expérience dans des milieux très sauvages, mais plutôt l'absence de contact quotidien avec la nature de proximité. À nouveau une parenthèse, donc ça c'est complètement en lien et en cohérence avec ce qu'exprime la pyramide de connexion avec la nature que j'ai eu l'occasion de vous présenter dans un prochain podcast. Retour à la chronique. Le jardinage est une activité traditionnelle qui permet à un enfant d'être en contact régulier avec la nature. Les légumes sont un bon choix pour les jeunes enfants. Ils poussent vite et peuvent être mangés en toute saison. Les enfants sont plus enclins à manger des légumes qu'ils ont eux-mêmes fait pousser. Selon Abraham Maslow, le célèbre psychologue, auteur de la pyramide des besoins, même les enfants sont saisis par des questions de nature spirituelle. L'enfance et la nature sont, respectivement, une période et un environnement propices aux expériences de, je cite, « grande signification, de beauté, d'inspiration, hors de toute religion institutionnelle ». Fin de citation. La spiritualité pourrait être définie comme le fait d'être constamment émerveillé par le réel, et tout particulièrement par la nature. À présent, quelques extraits du livre, en lien avec la thématique santé des enfants et environnement. L'étude suggérait également que le jeu libre dans la nature est bien plus efficace que les activités obligatoires et organisées par des adultes dans la nature. Paradoxalement, ceci suggère que les organisateurs d'activités nature devraient s'efforcer de rendre l'expérience aussi peu organisée que possible, tout en lui conservant un sens. Plus facile à dire qu'à faire. Les parents se sentent déjà assiégés par les difficultés à trouver un équilibre entre le travail et la vie de famille. De manière compréhensible, ils peuvent résister à l'idée d'ajouter d'autres éléments à leur longue liste de choses à faire. Alors voici une autre façon de voir le défi. La nature comme antidote. La réduction du stress, une meilleure santé physique, une spiritualité plus profonde, plus de créativité, le sens du jeu et même une vie plus sûre, ce sont les récompenses qui attendent une famille quand elle invite plus de nature dans la vie des enfants. Chercher les bordures des habitats naturels, où les arbres s'arrêtent et un champ commence, où les rochers et la terre rencontrent l'eau. La vie est toujours dans ces espaces de transition. Parlant d'une personne ayant connu une sévère dépression, elle dit qu'elle avait souffert d'avoir été, je cite, « à distance de la beauté ». Cette idée est devenue une partie de moi. Je sais quand je suis en train de souffrir de cette distance. Bien que la confiance en soi et la conscience peuvent venir de l'expérience de la nature, les générations ne vont pas dans la nature pour trouver de la sécurité ou de la justice. Elles y vont pour trouver de la beauté. Très simplement, quand nous refusons la nature à nos enfants, nous leur refusons la beauté. Une citation de Vincent Van Gogh, citée par Richard Louv. Ce n'est pas le langage des peintres, mais le langage de la nature que l'on devrait écouter. Ressentir les choses elles-mêmes, la réalité, est plus important que ressentir des images. Fin de citation. Préserver des îlots de terrain sauvage, des parcs, des réserves, dans les zones urbaines n'est pas assez, selon la théorie écologique actuelle. Au lieu de cela, un environnement urbain sain demande des couloirs de nature pour le mouvement et la diversité génétique. La nécessité spirituelle de la nature, pour les jeunes, est un sujet qui reçoit peu d'attention. Après tout, une expérience spirituelle d'enfant dans la nature, en particulier dans la solitude, est au-delà du contrôle parental et institutionnel. Alors mon avis sur ce livre, ce que j'ai particulièrement apprécié, un ouvrage de référence concernant l'influence de la nature sur la santé des enfants, et puis le fameux syndrome de manque de nature, bien que ne correspondant pas à un concept médical précis, est si reconnu aujourd'hui que même l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, l'USEPA, y fait référence dans les recommandations de son mois de la santé des enfants. Également une grande richesse de sujets, santé physique, santé mentale, approche évolutionniste ou approche ancestrale, comme je l'ai appelé dans un podcast précédent, capacité d'apprentissage, résilience, spiritualité, etc. Donc vraiment une grande richesse de sujets, chacun étant appuyé par des études scientifiques et des points de vue de chercheurs. Ce que j'ai moins apprécié, c'est tout simplement que le livre n'est pas traduit en français à ce jour, alors qu'il est pourtant un best-seller international écrit dans une langue tout à fait accessible à un lecteur standard, qu'il a été publié il y a plus de 10 ans. Donc ça me paraît vraiment à la fois surprenant et bien dommage, parce que ce contenu peut vraiment être très utile pour beaucoup de gens. Donc voilà, cette chronique, c'est ma contribution à diffuser ce contenu. Voilà, c'est la fin de cet article. Je partage avec vous un retour d'expérience personnelle en lien avec le thème qu'on y a abordé. Ce que je peux vous dire, moi, c'est que ma fille aînée, qui a 3-4 ans, elle aime bien utiliser les tubes en carton qui sont la base des rouleaux d'essuie-tout. Et vraiment, cela constitue pour elle, en cohérence avec la théorie des pièces détachées, des objets dont la signification n'est pas préétablie et qui lui permettent de développer son imagination, en tout cas autant que je puisse le voir. Moi, je l'ai déjà vu faire des collages avec. Elle s'en est servie pour moduler sa voix, elle s'en est servie comme jumelle, elle s'en est servie pour moduler les sons qu'on lui donne jusqu'à ses oreilles, ou encore quand elle avait plusieurs rouleaux comme des espèces de baguettes de batterie un peu partout dans la maison. Et ça, c'est uniquement ce que j'ai pu voir. Donc j'imagine qu'elle en a trouvé également d'autres. Elle aura trouvé d'autres fonctions ou d'autres jeux avec. Donc vraiment un bon exemple d'une créativité développée par des objets dont la fonction n'est pas préétablie. Voilà, mais si le contenu de ce podcast vous a plu, bien je vous invite à le partager autour de vous, en particulier auprès des personnes dont vous pensez que ce contenu peut être utile. Je vous invite à le partager par mail ou sur les réseaux sociaux. Voilà, merci à vous, merci à Ronan Vernon pour la musique, merci à Yamaus pour les dessins. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast, et d'ici là...